Les rendez-vous M28. Racontons demain, prendre acte, relier et se projeter avec le vivant. Ce cycle de rencontres mensuelles s'inscrit dans le cadre de l'événement 25, les chemins du vivant portés par M28 Terre de Culture. Ces rendez-vous visent à relier les professionnels et publics associés à la démarche et à partager des réflexions autour de thématiques communes. Un lundi par mois, deux intervenants, artistes, chercheurs ou porteurs de projets, sont invités à dialoguer autour de problématiques thématisées à l'Hôtel d'Aurès à Montpellier, cœur battant de Montpellier 2028. Les rendez-vous M28, un projet réalisé en coproduction avec les radios du CRLO.
Eh ben, merci à vous. Bonsoir. Bienvenue à l'Hôtel d'Aurès pour ce cinquième rendez-vous porté par M28 Terre de Culture, des rencontres Racontons demain, prendre acte, relier et se projeter avec le vivant. Ces rencontres ont lieu dans le cadre de l'événement Les Chemins du Vivant qui est porté par notre association. Et l'objectif, c'est une fois par mois, le lundi, de créer le dialogue, créer le débat parfois sur une thématique. Et nous avons choisi ce soir la thématique de l'aller vers les publics. Aller vers les publics, c'est une préoccupation qui est à la genèse de Montpellier 2028, puisqu'il s'est agi de travailler à de la coopération, à du lien, à de la diversité des publics, à une manière de faire autrement et de porter une démarche sur le territoire Montpellier 2028, qui, je le rappelle, est un territoire qui n'existe que par le choix des acteurs qui le font vivre. Et ce soir, nous avons décidé de vous demander de venir chacun avec votre expérience nous parler de ce sujet. Élise Armentier, d'abord, je vais vous présenter. Vous êtes co-directrice de l'association Bouillon Cube, qui est située aux Causses de la Selle, qui est un village héraulté de 400 habitants au cœur du Grand Pic Saint-Loup, qui fait partie du territoire d'intervention de notre association. Vous êtes à 40 km de Montpellier, une terre rocailleuse qui abrite La Grange, qui est un tiers-lieu rural au sein duquel bouillonnent nombreuses activités. Vous êtes là depuis bientôt 20 ans. Vous avez créé une fabrique de territoire rural. C'est un lieu, vous nous raconterez un peu ce que vous y faites, qui est chargé d'histoire et dans lequel vous développez des activités très diverses, des concerts, des résidences d'artistes, des échanges européens. Vous étiez d'ailleurs à nos côtés dans le cadre de la candidature Capitale Européenne de la Culture. Des ateliers pour les plus jeunes, c'est important pour nous aussi dans cette dimension culture à hauteur d'enfants qui est importante pour nous. Bref, vous avez une forme de singularité. Vous allez nous raconter la manière dont vous appréhendez-vous ce lien avec le ou les publics. Je ne sais, c'est vous qui définirez la manière dont vous allez vers eux ou vous travaillez en lien avec eux. Nous travaillons beaucoup sur la question du lien au sein de Montpellier 2028 et c'est important pour nous que d'arriver à éclairer quelque part cette démarche collective et culturelle. Julien Audemars, vous êtes de votre côté maître de conférence et chercheur en sciences politiques au CEPL, qui est en lien avec le CNRS et à l'Université de Montpellier. Vous travaillez sur des recherches qui portent sur les pratiques et les politiques culturelles en France et en Europe. À nouveau, ce lien européen qui est celui qui nous a unis initialement dans le cadre de Montpellier 2028. Vous êtes également spécialiste de l'analyse localisée du politique, des méthodes d'enquête quantitative et de l'analyse statistique. Vous allez nous dire en quoi ça permet d'éclairer le sujet que nous avons porté ce soir. Vous avez travaillé sur l'enquête des pratiques culturelles des Français. Vous avez participé à plusieurs projets de recherche sur l'impact territorial des festivals, qu'il s'agisse d'impact des festivals en France métropolitaine ou dans les DOM-TOM et singulièrement en Guadeloupe. Et vous avez été membre d'un projet également financé par la Commission européenne sur les valeurs sociales de la culture. Et c'est important pour nous que vous nous disiez en quoi ces valeurs sociales sont pertinentes dans les sujets qui nous animent aujourd'hui. Vous êtes enfin l'auteur, et je le découvre ce soir grâce à cette rencontre, d'un ouvrage sur les centres culturels de rencontre, qui sont voilà des centres qui font le lien entre le patrimoine et la culture contemporaine. Et c'est des labels très particuliers des politiques culturelles aujourd'hui en France, et vous nous en direz peut-être deux mots. Et un ouvrage est d'ailleurs paru suite à cette enquête qui s'appelle « Création et disparition des festivals en France ». Dont la parution, est prévue. C'est une autre parution qui arrive. Vous êtes prolixe en la matière sur les dynamiques festivalières en juin prochain aux presses de Sciences Po. Alors, vous connaissez l'exercice. L'idée est de vous laisser dialoguer tous les deux dans un premier temps, puisque on essaye de faire en sorte que chacun, avec sa singularité, son histoire, puisse appréhender les thématiques, que vous échangiez entre vous sur ces sujets pendant, disons, une trentaine de minutes aujourd'hui. Et puis ensuite, nous laisserons la parole à la salle pour quelques questions échanges avant de terminer notre rencontre. Qui commence entre vous? Vous avez préparé cette rencontre. Lequel des deux veut se lancer?
Merci Sophie. Bonjour à tous et à toutes. Oui, alors, donc tu l'as dit, co-directrice de Bouillon Cube, ce nom vient pas de nulle part. Bouillon Cube, on s'est posé vraiment la question à un moment de pourquoi on allait appeler notre association Bouillon Cube il y a effectivement bientôt 20 ans. Ça avait du sens pour nous vraiment de mêler plusieurs axes d'activité et de mêler du coup des publics. Donc c'est bien pour ça aussi que je suis là ce soir. Donc le bouillonnement d'activité, le bouillonnement de personnes, peut-être aussi du fait de la localisation, du fait de s'installer dans un petit village de à l'époque 350 et maintenant bientôt 400 habitants habitantes. Dans le sens où il nous a semblé évident dès le début de, alors pour nous, hein, je sais bien que ça se passe pas partout pareil, c'est selon les appétences, les sensibilités, les envies. En tout cas, nous, on n'était pas un collectif d'artistes, on était un collectif de personnes motivées par la médiation culturelle, l'éducation populaire et le fait d'organiser, donc l'organisation plutôt. Donc, on n'est pas allé vers une seule esthétique ou une seule activité. Il nous a semblé vraiment important de se dire que, en fait, si on, enfin, c'était évident que l'outil culturel, était au centre de notre projet, mais qu'on n'allait pas faire que de la programmation, puisqu'en fait, pour nous, le fait d'accueillir des artistes avait, et de faire de la résidence et de l'accompagnement d'artistes avait du lien évidemment avec la programmation, mais que ça allait pouvoir faire du lien et du sens aussi avec l'action culturelle, de l'éducation artistique et culturelle, donc du coup de pouvoir aussi toucher les enfants de la crèche et des relais petite enfance jusqu'au lycée, et d'aller au-delà de ça. Et de pouvoir aussi toucher les enfants les mercredis, les vacances scolaires, donc aussi sur des activités extrascolaires en dehors de voilà du temps scolaire, et de pouvoir toucher aussi d'autres personnes, des personnes adultes, notamment sur la question de la coopération européenne, sur le fait de faire du lien et des partages, des échanges autour de ce qui nous rassemble, même à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Ça, c'est aussi parce qu'on avait beaucoup voyagé. Tout ça nous semblait hyper important, en fait. Et ce bouillonnement-là a été directement l'ADN et fait partie de notre socle, en fait. Hein. On a déposé ça dans nos objets statutaires. Et dans vraiment l'ADN du projet, il y a cette envie de mixer toutes ces activités, tous ces axes d'activité. Et du coup, c'est public, puisque ça en découle directement. C'est venu se conforter quelques années après, en 2021, donc presque 15 ans après la création de l'association, avec la création d'un tiers-lieu, même si en fait on a l'habitude de dire que le tiers-lieu, en fait, la grange existe depuis le début, qu'en fait faire tiers-lieu c'est notre ADN depuis la création. Sauf qu'en fait, il y a presque 20 ans, le mot tiers-lieu n'existait pratiquement pas. En fait, on l'utilisait pas comme on l'utilise maintenant. Mais c'était déjà ça, en fait, mêler les enfants, les familles, des mercredis avec des sorties de résidence, accueillir des artistes, faire des projets européens, accueillir des volontaires européens, européennes, faire des projets de coopération à l'échelle européenne. C'était déjà ce bouillonnement et ce tiers-lieu qui nous intéressait, ce côté faire tiers-lieu qui nous intéressait. Mais en tout cas, en 2021, on est venu enrichir ces trois axes historiques, culture, jeunesse et Europe par par l'ouverture du tiers-lieu, avec vraiment la possibilité aussi d'ouvrir les portes de la grange à des espaces, à des personnes, avec des structures autres que la structure porteuse Bouillon Cube, et du coup d'ouvrir aussi, de rencontrer, de créer du lien, de mêler aussi des activités différentes qui n'étaient pas directement portées par nous, et de formaliser aussi tous ces projets-là avec un espace de vie sociale, voilà, un espace de vie sociale qui a été agréé en 2022. Donc voilà, pour nous, ça a vraiment du sens de continuer dans cette dynamique transversale. Et voilà, on en a discuté effectivement il y a une semaine. La transversalité, je crois que c'est pour nous, c'est une entrée déjà dans le fait d'aller vers différents publics. Juste pour clôturer la présentation et l'explication autour de cette notion de transversalité. Pour exemple, là, on est sur un projet de création d'une cantine scolaire qu'on va ouvrir en septembre 2025, donc dans 6 mois. Il y a eu vraiment l'idée de se dire que, en fait, d'être à l'écoute aussi des besoins et des envies des habitants, habitantes de ce territoire. Donc, il y a bientôt 20 ans, la culture et les activités jeunesse, enfants jeunesse étaient une nécessité puisqu'il y avait rien sur notre territoire, mais voilà, il y avait vraiment rien. Là, depuis post-Covid, mais même un petit peu avant, il y avait déjà plein de dynamiques qui étaient en train de se créer, de se monter, et on a vu un territoire qui a changé, qui a évolué avec des nouvelles personnes, des nouvelles activités, des nouveaux secteurs d'activité qui ont été développés. Et là, on se rend compte qu'en fait, l'endroit de Bouillon Cube, et donc le tiers-lieu culturel au sens large du terme, il est peut-être pas forcément à l'endroit de la programmation culturelle, mais que peut-être la question d'une cantine scolaire et de travailler sur la question de l'alimentation, la question de nourricière, en fait, elle a sa place aussi, encore une fois, dans ce grand volet de la culture large. Et du coup, c'est peut-être plus cet endroit-là maintenant, à l'heure actuelle, en 2025, où on nous attend, où le public et les publics nous attendent. Donc voilà, c'est comment en fait on arrive à avoir un projet multiple qui répond justement aux besoins et aux besoins des habitants habitantes.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, ce qui me semble absolument passionnant dans cette aventure, dans ce projet qui, je crois, est assez fantastique, hein, de Bouillon Cube, c'est justement cette notion de transversalité qui fait écho à ce que j'ai pu observer dans mes propres travaux, ou plutôt les travaux que j'ai menés avec mes collègues, parce que je dois les citer, hein, Emmanuel Négrier, qui est le directeur du CEPEL, laboratoire de recherche où je travaille, mais également Aurélien Jacquouane, qui est notre compagnon d'aventure depuis plusieurs années, qui est maître de conférence à Nanterre. Et cette transversalité liée à la culture et l'action culturelle, on a pu l'observer au moins à 3 niveaux. Alors, tout d'abord, au niveau des publics, on a beaucoup travaillé sur les publics de la culture, et en particulier sur les publics des festivals, et on se rend compte aujourd'hui que les publics vont à la culture pour des raisons qui ne sont pas toujours proprement culturelles. Ils viennent aussi pour faire la fête entre amis, pour leur propre bien-être, et pour des raisons qui font référence justement à cette notion de transversalité. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le niveau des acteurs culturels, des institutions culturelles. Sophie, tout à l'heure, a fait référence à l'enquête qu'on a menée sur les centres culturels de rencontres, hein, dont le livre qui est déjà paru aux éditions de La Tribu, qui s'appelle « Faire la belle », rend compte de cette enquête. Et les centres culturels de rencontres sont un exemple d'institutions culturelles, hein, de labels portés par le ministère de la Culture, qui fait la promotion justement de cette transversalité culturelle, puisqu'effectivement, il s'agit à la fois de porter des projets patrimoniaux, hein, de conservation du patrimoine, mais également des projets de programmation culturelle, en particulier dans le domaine du spectacle vivant, mais pas que. Mais également, au-delà de ça, ce sont les centres culturels, des institutions qui font la promotion de la transversalité dans leur action, puisqu'ils s'adressent directement aux territoires, hein, en particulier des territoires très ruraux, et à leurs problématiques diverses. Le dernier niveau au sein duquel j'ai pu observer l'émergence de cette notion de transversalité, c'est le niveau des collectivités, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'il s'agisse de l'État, des collectivités locales et même de l'Europe. Sophie, tu as cité tout à l'heure l'enquête qui a eu lieu dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait Uncharted et qui avait pour ambition d'analyser les valeurs sociales associées à la culture, alors à la fois sous l'angle des pratiques culturelles, hein, des citoyens, mais également sous l'angle des politiques culturelles. Et le questionnement de cette enquête était de savoir, justement, au nom de quelles valeurs est-ce qu'on peut produire des politiques culturelles, au nom de quelles valeurs est-ce qu'on développe des pratiques culturelles, étant entendu, justement, qu'il fallait dépasser à la fois l'idée selon laquelle eh bien, la culture porte des valeurs intrinsèques, purement artistiques, purement esthétiques, mais aussi, ce sont des discours qu'on entend souvent, hein, depuis plusieurs années maintenant, hein, des valeurs rattachées au monde économique. Et on s'est aperçu justement qu'au cours des dernières décennies, l'action publique culturelle était produite au nom de valeurs absolument diverses et multiples. Aujourd'hui, on fait de la culture, alors non seulement effectivement pour permettre l'accès hein, à tous hein, à la culture et à l'excellence artistique, mais on fait également de la culture pour promouvoir l'attractivité des territoires, pour promouvoir l'économie, mais également à ces objectifs que je qualifierais de classiques, de traditionnels, se sont agrégés des valeurs, des objectifs de politique publique beaucoup plus récents et plus iconoclastes, qui font référence à ce qu'on pourrait appeler des valeurs extrinsèques de la culture, alors qu'il s'agisse de la promotion du lien social, par exemple, ou encore la promotion ou l'accompagnement des transitions auxquelles les sociétés sont confrontées aujourd'hui. Alors on pense directement aux transitions écologiques. Et je travaille d'ailleurs à l'heure actuelle sur un projet qui étudie la mise en œuvre des normes d'éco-conditionnalité dans les financements publics de la culture. Mais on pourrait penser à d'autres types de valeurs, y compris le bien-être. Et on a vu, notamment au cours de la crise du Covid, combien la culture était essentielle hein, au bien-être des citoyens. Donc c'est quelque chose qu'on peut observer sur le terrain, encore une fois, à différents niveaux. Mais en même temps, la transversalité, c'est aussi quelque chose qui pose de nombreuses questions. Et c'est ces questions que je voudrais te poser à toi en tant qu'actrice hein, de ce monde culturel, actrice de terrain. Alors, la première question, c'est finalement les conditions de la mise en œuvre de la transversalité. Parce qu'effectivement, on peut considérer qu'il s'agit d'un atout, notamment dans cet objectif d'attractivité des publics, hein, de la culture, qui est finalement l'objectif le plus ancien, peut-être le plus fondamental hein, de l'action culturelle. Mais en même temps, on peut penser que cet objectif de transversalité constitue aussi une contrainte pour les acteurs culturels eux-mêmes, et en particulier pour ceux qui évoluent dans les milieux les plus ruraux. La deuxième question que je voudrais aborder, c'est sur la spécificité justement des territoires ruraux vis-à-vis de cet objectif de transversalité. Nous, ce qu'on a vu dans nos travaux, c'est que si la transversalité dans l'action culturelle était quelque chose qu'on pouvait observer à peu près partout, c'était sans doute quelque chose de plus prégnant, d'encore plus important au sein des milieux ruraux, en tout cas pour les acteurs qui interviennent dans ces milieux-là. Alors j'aimerais avoir ton regard là-dessus et peut-être quelques éléments de réponse sur cette spécificité du secteur rural.
Oui, alors effectivement, je crois que souvent on utilise le mot boîte à outils. En fait, je crois qu'à Lagrange, et du coup au Thiérieu-Lagrange, on est devenu une boîte à outils multifonction du fait d'être voilà sur un territoire rural isolé où on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire qu'en fait, quand on commence à mettre le doigt, voilà, c'est un peu la boîte de Pandore. Je ne sais pas comment, enfin l'imager comme ça, mais il y a un peu ce truc-là où voilà, je prends l'exemple de on est allé sur les questions à un moment donné de bien-être justement sur nos lieux, sur nos festivals, sur la question de l'écologie, du développement durable, mais aussi sur les questions de réduction des risques, donc en termes de prévention, sur les questions de violences sexistes et sexuelles. On a créé des outils, on met des choses en place de ce type-là, et en fait on voit que les choses ne s'arrêtent pas et on devient en fait une structure référente à un moment donné sur un territoire et même au niveau départemental et voire même pour certains outils au niveau régional. Et en fait, on vient à nous pour du coup voilà demander d'autres questions sur la question de la prévention, sur la question de faire la fête, de bien faire la fête, une fête bienveillante. Enfin, il y a tout un volet comme ça qui se déroule, et c'est un peu pareil sur d'autres thématiques, c'est-à-dire que sur les questions de pédagogie, sur les questions d'éducation populaire, du fait d'expérimenter des choses avec des enfants qu'on accueille tous les mercredis sur des accueils collectifs de mineurs, de pouvoir faire des séjours de vacances et de faire intervenir des artistes que l'on accueille en résidence à côté, en parallèle, c'est de l'expérimentation en fait. Et du coup, on sent qu'il y a vraiment cette demande et cette envie. Et nous, on est un peu... alors, évidemment, il y a l'envie, parce que c'est un peu pour répondre aussi à ta première question. Je pense que c'est intrinsèque à notre projet. C'est un peu ce que je disais. C'est-à-dire que je vois bien les endroits, des fois, qui sont pas simples d'être dans un projet comme ça, protéiforme, hybride, où des fois, vraiment, clairement, on aimerait bien dire, ben, en fait, on fait juste ça, c'est plus facile et à définir et à expliquer à nos partenaires, financeurs et autres, et à notre public. Et en même temps, c'est ce qui nous plaît, c'est ce côté bouillon. J'ai commencé par ça en expliquant d'où vient la définition, enfin pour nous, d'où on est allé chercher ce bouillon. C'est vraiment ça en fait. C'est cet entremêlage, cette hybridation de projets, de personnes qui nous animent tout le temps, au quotidien. Donc on le porte, on l'assume maintenant. C'est plus facile maintenant qu'au début, parce qu'on a quand même bataillé pas mal pour expliquer ce que c'est que notre projet. Quand on a, petite anecdote, mais quand on a inauguré notre tiers-lieu, La Grange, on a notamment le sous-préfet qui est venu et qui nous a dit, mais je comprenais pas encore trop ce que c'était que le tiers-lieu, ce que vraiment ça c'était un tiers-lieu. Et là, ça y est, je sais ce que c'est. Donc il y a eu un espèce de truc où même nous on s'est dit, bah oui, en fait, là maintenant on assume vraiment ce truc-là, ce côté encore une fois hybride, protéiforme, un peu tentaculaire. Hein. On a eu aussi des retours comme quoi des fois il y avait un peu un côté opportuniste ou touche à tout parce qu'on en faisait beaucoup. Mais en fait, encore une fois, sur la question de revenir, pour revenir sur la question des publics, je crois qu'il y avait... Alors on en parlait, peut-être que dans certains quartiers urbains, on retrouve la même chose. Mais en fait, des fois, on n'a pas le choix parce que les gens viennent nous chercher. Quand je prenais l'exemple de la cantine, c'est vraiment des parents qui viennent nous chercher en disant, en fait, c'est plus possible, faites quelque chose. Alors, en fait, l'alimentation, c'est pas du tout notre domaine. On n'y connaît rien du tout. Mais non, mais vous n'avez pas le choix, en fait. Faites quelque chose parce que vous avez l'assise, une petite notoriété aussi, un certain ancrage, en fait, territorial. Et du coup, en fait, ils viennent à nous sur ces questions-là. Mais comme les artistes vont venir à nous sur des questions de résidence, de coopération européenne, de comment monter un projet. Enfin, voilà. En fait, on sert littéralement à tout. Enfin, vraiment, on est le couteau suisse ou la boîte à outils. Et ça nous plaît. En fait, ce truc-là nous plaît beaucoup. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être une spécificité aussi du monde rural. En tout cas, à la ville, en milieu urbain, il y a une possibilité d'aller chercher une complémentarité, dans différentes associations. Et c'est tant mieux. Donc, il y a peut-être un lien qui est différent, qui se crée différemment avec les associations partenaires dans les quartiers ou dans les villes. Nous, c'est vrai qu'il y a un partenariat, évidemment, parce que nous, depuis le début, il n'y avait pas du tout l'idée de travailler seul, d'où l'idée du tiers-lieu, mais aussi de s'ouvrir à l'Europe et avec différents réseaux de partenaires. Mais il y a cette spécificité-là de devoir faire, en fait, à un moment donné, et de devoir créer des choses qui ne sont pas encore créées sur nos territoires ruraux.
Effectivement, ce que l'on observe dans nos enquêtes, et en particulier dans les enquêtes sur les festivals, la dernière enquête qu'on a menée portait sur la question de la création des festivals. Pourquoi est-ce qu'on crée un festival ? Alors, on a interrogé les différents responsables de festivals en France et les créateurs de festivals également. Et ce qu'on a observé, effectivement, quand on leur demande pourquoi est-ce que vous créez un festival, c'est que les festivals issus du monde, ou plutôt des mondes ruraux, mettent en évidence des motivations très singulièrement socio-territoriales. Ils font référence à leur territoire, ils ont envie de faire rayonner leur territoire par la culture, ils ont envie de développer le lien social. Alors je ne dis pas que ces motivations-là sont absentes chez les créateurs de festivals dans les mondes urbains, mais ce que l'on observe, c'est que ces motivations chez eux sont secondaires par rapport aux motivations plus proprement esthétiques ou artistiques. Quand on crée un festival dans le milieu, dans les milieux urbains, on les crée essentiellement pour valoriser une discipline artistique, pour donner à des artistes la capacité de se produire. Alors on a essayé de réfléchir sur le pourquoi de cette différence. Et ce que l'on a pensé finalement, c'est qu'elle pouvait s'expliquer selon deux facteurs, complémentaires d'ailleurs. Le premier facteur, c'est celui de la densité de l'offre. Évidemment, la densité de l'offre culturelle est différente dans les milieux ruraux et dans les milieux urbains. Dans les milieux urbains en particulier, la très forte densité de l'offre culturelle induit une compétition assez forte au sein du milieu artistique et pousse les créateurs de festivals, mais les responsables d'institutions culturelles, à développer une certaine forme de singularité esthétique. Ce qui explique pourquoi ils vont mettre en avant ce type de motivation-là. Le deuxième facteur, la deuxième raison, a plutôt trait à ce que tu évoquais, qu'on pourrait appeler la division du travail social, différente dans les milieux ruraux et dans les milieux urbains. Effectivement, dans les milieux urbains, vous avez une pluralité d'institutions, public ou privé d'ailleurs, on ne souligne pas assez le rôle des associations à but non lucratif dans ces entreprises-là, mais une pluralité donc d'institutions qui remplit des fonctions sociales et en particulier donc qui va remplir des fonctions d'attractivité territoriale, de planning urbain, de développement des zones prioritaires au sein des quartiers de politique de la ville, etc. Et c'est ce qui fait que les acteurs des institutions culturelles et en particulier les festivals vont déléguer finalement ce type d'objectifs, ces objectifs très transversaux qui renvoient à des problématiques sociales et économiques très fortes à d'autres institutions, et c'est ce qui fait finalement qu'ils vont sans doute moins mettre en avant ces motivations d'ordre socio-territorial. Mais alors, ce qui est intéressant, si on replace la focale sur ces acteurs du monde rural comme Bouillon Cube, c'est finalement par quel dispositif de type transversaux on arrive à faire venir les publics et surtout on arrive à les faire participer. Il y a un terme qu'on n'a pas encore prononcé jusqu'ici, c'est le terme de droit culturel. Les droits culturels font partie de cet ensemble de référentiels ou de paradigmes qui caractérisent l'action publique depuis plusieurs années. Les droits culturels, ça signifie non seulement faire participer les publics, mais surtout les faire participer de manière active, c'est-à-dire de faire en sorte que les publics soient des créateurs à part entière des arts et de la culture. Alors, une première question serait de savoir comment est-ce qu'on fait cela. Et en même temps, qui dit droit culturel dit également représentation d'identité culturelle et individuelle multiple. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait participer les publics tout en respectant cette diversité culturelle et comment est-ce qu'on gère justement cette hétérogénéité d'identité, de volonté de participer à l'action culturelle.
Ouais, et ben vaste question. Nous, on a pas mal de projets de territoire, ce qu'on appelle le projet de territoire, qui paraît être un grand, voilà, comme chemin du vivant, qui est un grand projet de territoire, à l'échelle de ce territoire M28. Nous, ça fait des années qu'on développe ça dans l'idée de mêler plusieurs acteurs et actrices à un moment donné. Quand je dis acteurs et actrices, c'est effectivement les associations du territoire, mais c'est aussi des compagnies ou des groupes de musique avec qui on a envie de travailler, des artistes qu'on convoque en fonction des spécificités, de leur approche, de leur esthétique, de ce que on a envie de travailler. Donc il y a aussi notre expertise à nous qui est évidemment importante par rapport à l'historique, à tout ce que l'on a traversé sur notre territoire. Il y a aussi les élus qui font partie de cette donne-là, puisque nos élus locaux de la commune, mais de l'intercommunalité avec qui on discute, on échange, on voit bien des endroits en fait où c'est intéressant d'aller, de déplacer un peu, de déplacer des publics justement sur des nouvelles choses, des nouvelles pratiques, sur expérimenter expérimenter des nouveaux process. Et en fait, le fait, encore une fois, d'avoir cette transversalité et cette boîte à outils multiple nous a permis, dès le début, de pouvoir expérimenter des choses. Donc, de mettre en lien des artistes avec nos volontaires européens, européennes, qui venaient de Bulgarie, de Macédoine, du Portugal, d'Allemagne, mais aussi avec nos enfants qu'on accueille tous les mercredis et les vacances scolaires qui ont entre 3 et 11 ans, mais aussi avec les adolescents qu'on accueille dans l'espace de vie sociale, mais aussi avec blablabla, blablabla. Comme ça, la liste s'allonge et en fait, en fonction, il y a une espèce après d'alchimie, hein, de jeu comme ça qui se joue avec des artistes qui, en fait, à un moment donné, arrivent vers nous avec des projets, plus ou moins intéressants, mais en tout cas, ceux qu'on choisit sont intéressants. Et puis ces critères en fait et ces besoins du territoire qui remontent encore une fois de la part des acteurs, actrices, des associations, mais qui peuvent être des associations, les foyers ruraux avec qui on est partenaire, qui peuvent être le comité de chasse et de chasseurs avec qui on travaille beaucoup, qui peuvent être les artistes qui sont présents sur le territoire, les associations de parents d'élèves évidemment, les EHPAD, les associations de pratique amateur, il y en a diverses et variées, les clubs sportifs aussi, on essaye de travailler nous beaucoup, on a fait un projet avec notre club de tambourin, voilà, il y a vraiment cette idée à chaque fois de dire ben, on pose tout notre panel en fait de partenaires avec qui on travaille régulièrement. Cette année, on va avoir envie de travailler là-dessus. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de danse. On va bosser, aller sur la danse. On va aller choisir cet artiste-là. Tiens, en plus, il a un projet de création qui est sous le coude, qui nous amène. Et du coup, ça a du sens de travailler avec cet artiste-là, cette esthétique, ces publics-là sur cette année, de mêler avec le club de tambourin, comme je le disais, et de faire une restitution sur le club de tambourin. Ben, on est assuré d'avoir et les enfants, parce que le club de tambourin était à côté de l'école, donc comme on travaille avec l'école et avec l'accueil des loisirs qui se situe à l'école, on a déjà tout le volet familial, parentalité qui est là, plus le club de tambourin qui va brasser plutôt une typologie de public qui est plutôt des vieilles familles, parce que c'est un sport qui est pratiqué plutôt par les vieilles familles, les enfants, c'est plutôt des nouvelles familles nouvellement arrivées sur le territoire, donc il y a aussi cette mixité-là qui est hyper intéressante. J'en parlais la semaine dernière, mais on sort là d'un projet qu'on vient de faire avec une compagnie qui s'appelle Compagnie du Griffe, qui travaille autour de la chasse et qui est en train de créer un spectacle qui s'appelle La Diane. Donc c'est tout un travail de collectage et de témoignages de chasseurs et chasseuses qui sont plutôt vers le bassin Lodévois. Nous on les accueille, c'est une compagnie qu'on a déjà accueillie, ils ont un dispositif récurrent de création qui est un ciné docu-concert, donc avec la musique en live, il y a tout un travail de collectage sur 2 ans en amont, et donc là ce qui est super intéressant c'est pour nous, ça fait quelques années déjà qu'on travaille avec les chasseurs, on est déjà allé chercher sur des projets différents, mais on voit bien en fait comment les choses elles matchent de plus en plus, il y a vraiment une espèce de mayonnaise qui est en train de prendre, qui était beaucoup plus complexe évidemment il y a 10 ans, et puis en fait à chaque fois qu'on retourne les voir, maintenant évidemment ils nous connaissent, ils nous ont intégrés dans leur paysage, dans leur écosystème, de la même manière qu'ils savent qu'à tel endroit on peut pas chasser, on peut pas faire telle battue, ben en fait nous la grange il y a un peu ça, il y a un peu et les contraintes techniques de on peut pas chasser, mais il y a aussi cette approche là artistique, donc ils viennent, il y a des témoignages, il y a des interviews qui se font, il y a des repas et il y a tout un truc qui est en train de se mêler, et ça c'est une entrée, voilà, mais comme dans plein d'endroits sur les projets de territoire. Mais c'est vrai que, encore une fois, la richesse, j'ai envie de dire, des nombreux partenariats que l'on a, nous permet d'avoir vraiment des possibilités assez infinies sur les projets de territoire que l'on crée. Et ça permet de mélanger plein de typologies de publics différents.
Alors, il y a la question d'aller vers les publics, mais il y a aussi celle de fidéliser les publics, maintenir le lien avec les publics. Et ça, c'est une problématique à laquelle les institutions culturelles sont toutes confrontées. Dans le cadre des festivals, c'est quelque chose qu'on observe de manière très prégnante. puisqu'il s'agit d'institutions culturelles qui sont marquées par des taux de renouvellement assez importants des publics. Hein. C'est à peu près un tiers de nouveaux publics hein, qui arrivent en moyenne hein, chaque année hein, dans chaque festival. Et donc, c'est une problématique assez forte, finalement. Comment est-ce qu'on arrive à faire revenir, à fidéliser ces publics-là? Comment est-ce qu'on arrive à pérenniser un public sur le temps long? Et les réponses auxquelles on a pu aboutir sont de deux ordres. La première réponse, c'est la question de la territorialité, de la territorialisation. Ce dont on s'est aperçu, c'est que sur les dernières années, il y a un phénomène de reterritorialisation des publics des festivals. La part des publics locaux a tendance à augmenter. Alors, c'est sans doute un effet de la pandémie de Covid, hein, qui fait qu'on a changé nos habitudes de déplacement. Mais c'est peut-être aussi un effet de la transformation hein, de l'offre culturelle en France hein, et des habitudes hein, en matière de pratiques culturelles. Et c'est tout à fait intéressant parce que ce phénomène de reterritorialisation des publics conduit à observer des nouvelles catégories d'individus, des nouvelles catégories d'acteurs qu'on observait traditionnellement moins au sein des publics de la culture, arriver hein, en particulier au sein d'événements comme les festivals. Le deuxième élément, justement, c'est la transversalité. Et un festival, c'est sans doute un type d'événement culturel qui est marqué, justement, par cette forte transversalité. Ce qu'on observe quand on s'intéresse au public des festivals, et en particulier aux nouveaux venus, c'est qu'on a affaire à des individus qui sortent au festival, qui viennent au festival, en quelque sorte en s'assurant. Pratiquer une activité culturelle, sortir hein, pour voir de la culture, c'est toujours quelque chose qui implique une pluralité de coûts, des coûts de déplacement, des coûts financiers, voire des coûts de type psychologique ou émotionnel. Et donc les publics des festivals, et en particulier les nouveaux publics, s'assurent. Et ils s'assurent en contractant ce qu'on a appelé une triple police d'assurance. Première police d'assurance, les nouveaux publics des festivals viennent voir des artistes qu'ils connaissent déjà. Deuxième police d'assurance, les nouveaux publics des festivals viennent non pas seuls, mais ils viennent accompagnés par des amis. Comme ça, ils se disent, au moins, si ça me plaît pas, je serai avec mes amis, je pourrai faire la fête, je pourrai profiter de ce moment-là. Troisième police d'assurance, ils viennent au cours d'un moment tout à fait réduit. Ils viennent pas pendant les 3 ou 4 jours que dure l'événement. Ils concentrent leur venue généralement sur un jour ou 2 jours au maximum. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, les éditions d'après, lorsque ces mêmes publics décident de revenir au festival? Eh bien, il se trouve qu'ils reviennent non pas pour voir la tête d'affiche qui, la plupart du temps, les a déçus lors de leur première venue, mais ils viennent pour voir de nouveaux artistes qu'ils ont découverts lors de leur première venue. Donc les artistes pour lesquels ils n'étaient pas venus sont ceux qui font qu'ils reviennent par la suite. La deuxième chose, c'est que ils ne viennent plus nécessairement entre amis, mais ils viennent pour retrouver des amis qu'ils se sont faits au cours du festival, lors de la première venue, lors de l'édition précédente. Et troisième chose, cette fois-ci, ils ne viennent pas pendant un jour, mais ils viennent pendant toute la durée du festival. Et c'est ici qu'on retrouve ce lien très fort au territoire qui, parfois, est déjà présent, puisqu'il s'agit de publics locaux, mais parfois aussi se construit complètement. Donc, au regard de ces éléments-là, finalement, je voulais savoir si toi, c'est des choses que tu peux observer et quelles sont un peu les recettes que vous, à Bouillon Cube, vous pouvez développer pour fidéliser ces publics.
Oui, alors effectivement, on remarque complètement un public fidèle qui nous suit. C'est assez drôle parce qu'en plus, il a évolué en même temps que nous. Il a grandi, mais en termes d'âge, hein, réellement. On a vraiment vu qu'il y a une progression comme ça qui s'est faite en 20 ans. Et voilà, forcément, qui s'est adapté aussi à notre programmation et à ce qu'on propose. Mais il y a vraiment, oui, il y a vraiment un public qui s'est fidélisé et surtout qui nous a fait confiance. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là de. Mais comme tu le dis, dans le festival, je pense qu'on est là-dessus aussi, ou sur les saisons culturelles, il y a de plus en plus ça. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a enfin, c'est pas l'impression, c'est qu'on a vraiment des retours hein, sur les études publiques qu'on fait, nous de notre côté aussi, et les retours directs que l'on a. Il y a vraiment, les personnes viennent chercher, encore une fois, peut-être un lieu atypique, parce que nous, on est en plein air, et il y a aussi quelque chose qui est décomplexé par rapport à l'offre culturelle que l'on fait. Donc, on est hors salle noire. Donc, il y a aussi des personnes qui ne seraient pas forcément allées vers une offre culturelle dès le début, enfin voilà, de manière innée comme ça, mais qui du coup viennent aussi parce que le lieu est un lieu, en extérieur où il y a une possibilité de venir avec les enfants, où on arrive, on se sent bien, on se pose. Il y a un côté très familial, très bienveillant aussi, j'en parlais tout à l'heure, on travaille beaucoup sur cette question-là, sur l'esthétique aussi du lieu, on est en pleine nature, donc il y a une attention aussi sur les lumières, sur le cadre, sur le fait que voilà, on est un public qui soit plutôt bien, dans des espaces jolis, que ce soit plutôt dans un respect aussi des espaces qui nous entourent et du public qui vient. Donc ça, c'est vraiment très fortement apprécié. Il y a évidemment une confiance aussi et une fidélisation par rapport à la programmation. Donc il y a une ligne programmatrice qui ressort, mais il y a aussi des personnes clairement qui viennent parce qu'ils savent que de toute manière à la Grange ils seront contentés par ce qu'ils vont voir. Ils vont y découvrir aussi des créations parce que voilà, tu parlais de la scène régionale locale. Nous, on travaille beaucoup sur l'accompagnement d'artistes émergent tout au long de l'année. Hein, quand on fait des résidences d'artistes, c'est le but. Et on essaye de contrebalancer cette création émergente, cette création régionale, avec évidemment quelques têtes d'affiche avec qui on a envie de travailler, qui vient effectivement faire cet effet d'amorçage un peu. Mais finalement, il y a une vraie confiance sur ce qui va être vu sur notre lieu, sur des créations, que ce soit pour les spectacles, des spectacles pour l'enfance et la jeunesse, comme des spectacles tout public. On travaille beaucoup en réseau hein, au niveau du département et de la région, Collectif Enjeu, le réseau Silo, qui sont des réseaux d'aide à la production et de structuration des créations en Occitanie. Et pour nous, c'est vraiment hyper important cet endroit-là, puisqu'on voit que ça fonctionne en fait. Il y a vraiment plein de personnes qui viennent les yeux fermés en se disant que c'est OK en fait, et qui vont aimer en fait ce qui va être proposé. Donc ça, c'est super chouette. Et je crois que vraiment cette question aussi de, comme je le disais tout à l'heure, de décomplexer l'accès à la salle noire se retrouve aussi, effectivement. Et ça, peu importe le côté urbain et rural, finalement, j'ai l'impression que, on le voit bien, hein, dans des festivals maintenant qui sont bord de mer, à Sète ou ailleurs, un peu partout, en fait, on vient chercher aussi quelque chose de l'ordre de l'originalité dans le cadre, et pas forcément que la programmation, mais un peu en quête de sens aussi, j'ai envie de dire, de qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc il y a la question du cadre, mais il y a aussi la question de qu'est-ce que ça raconte, enfin la question de des questions écologiques, de ce qu'on porte dans un projet culturel ou d'un festival qui est sur, encore une fois, sur toutes les questions de prévention, de faire la fête autrement, de créer des nouveaux formats de festifs et culturels. Je pense que ça, c'est hyper important de plus en plus. On l'a vu très fortement post-Covid, mais très fortement là maintenant, on le ressent. Et on est remercié, nous aussi, très fortement par notre public qui, effectivement, est fidèle et qui nous fait beaucoup ce retour-là de, en fait, vous n'avez pas lâché, vous ne lâchez pas. Il y a aussi cette notion-là de, on continue à défendre un projet culturel au-delà de, justement, d'une offre qui se densifie et qui, des fois, peut être concurrentielle à certains endroits. Je ne sais pas, oui, si c'est le moment, on n'a pas regardé l'heure, si c'est le moment de poser des questions à la salle.
Donc, le sujet, c'est donc aller vers les publics. Il y a aussi des publics qui viennent vers l'offre, hein, cette espèce de double direction permanente. En fait, je connais pas le bouillon cube, ça donne envie en tout cas. Mais j'ai une expérience un peu de projet semblable dans le Minervois, parce que je suis originaire du Minervois, même si je vis depuis très longtemps à Montpellier. Et il y a des choses qui se développent dans les villages, entre autres dans le mien, puisque j'ai des frères qui sont très militants et qui sont très engagés dans les politiques culturelles du village. Et tout est parti d'une boulangerie, et puis d'une boulangerie, des projets sont nés. Et donc on est dans un... Une l'idée de répondre à une nécessité par rapport à un besoin de la population. Il n'y a plus de pain. Et donc on installe un boulanger et puis à partir de là, une politique culturelle commence à se mettre en place parce que dans la boulangerie, on peut créer des petits moments, des petites formes, des choses comme ça. Et alors c'est génial parce que c'est nécessaire, c'est-à-dire ça a redonné une place au vivre ensemble finalement au travers de l'outil du pain. Et comment de là, je rebondis du coup sur le... La chose de la cantine, hein, ça a du lien avec ça. Et ça a redonné une place au vivre ensemble, parce qu'il n'y avait plus de bistrot, il n'y avait plus rien dans ce village. Et du coup, comment ça tisse du lien, ça permet à des gens de se rencontrer, des gens du village qui ne se rencontraient même plus, qui peuvent se retrouver autour de choses comme ça. C'est très important. Et alors après, le risque, moi, que je vois à ça, du coup, c'est le... Alors, je ne sais pas trop comment l'exprimer. C'est peut-être l'espèce d'une facilité artistique. C'est-à-dire, comment arriver, après, à introduire l'idée d'une exigence. Parce que je pense que l'art, ce n'est pas du divertissement. Et, parce que je suis artiste, moi, du coup. Et comment arriver à amener l'exigence de l'artiste dans quelque chose qui est dans le vivre ensemble, et comment arriver à être dans cette tension qui fait que les gens ne vont pas, parce que finalement les grandes émotions artistiques que vous avez tous eues, qu'on a tous eues, on les a eues seuls finalement, c'est au moment où on se sent face à soi-même. Donc le festival, c'est qu'un outil, la célébration, du commun, c'est un outil pour accéder à soi. Donc en fait, comment on met en tension ces deux choses-là pour ne pas après aller vers une espèce d'appauvrissement du sensible. Voilà, en tout cas, il y a un vrai enjeu, je crois, entre ces exigences finalement qui sont en tension, donner accès, mais accès à quoi et pour aller où?
Oui, alors tout à fait. Quand je disais qu'on avait bataillé quand même un peu au début pour défendre cette pluralité et cette hybridité et ce pot pourri que pourraient dire aussi certaines personnes. Enfin voilà, on pourrait aller vers ça. Non, mais dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on bataille. Pour nous, ça a été clair dès le début que l'endroit, en tout cas, vu qu'on utilisait l'outil culturel et artistique, il était clair qu'il fallait qu'il y ait une exigence et une qualité artistique au rendez-vous, parce que sinon, justement, il y avait un risque, et c'était très compliqué de ne pas tomber dans l'animatoire ou le divertissement. Alors, ça n'était pas compliqué pour nous, mais pour justement le public ou pour les partenaires ou pour les financeurs, il a fallu qu'on bataille ça auprès de la DRAC, auprès de la région. Ça nous a demandé à nous inscrire justement dans des réseaux régionaux, nationaux. Voilà, de reconnaissance aussi et d'endroits en tout cas de qualité où on parlait de qualité vraiment artistique. Ça nous a demandé à travailler et à discuter énormément et à échanger avec des équipes artistiques aussi et d'écouter quelles étaient leurs priorités à certains endroits. Que faire et aller vers les publics, faire avec les publics et aller vers les publics, ça ne veut pas dire tout le temps et avec tous les artistes, qu'on accueille aussi des artistes en création qui n'ont pas envie d'aller vers le public et qui ne sont pas dans de la médiation et dans de l'action culturelle. Et évidemment, ça, c'est OK. Donc voilà, il y a cet endroit-là. Ça passait aussi par avoir une infrastructure, au-delà d'avoir un espace de plein air avec un théâtre de verdure équipé, ça passait aussi par des espaces de travail intérieur, évidemment, pour pouvoir accueillir des artistes tout au long de l'année dans des espaces équipés et qui puissent travailler dans des conditions qui sont les leurs. voilà, et qu'on pouvait leur donner. Donc voilà, pour nous, ça a été quelque chose, ça, qui a été hyper important, parce que justement, sinon, on était sur un fil. Alors, je pense qu'on a eu besoin de ça aussi, puisqu'on s'est pris direct d'emblée une espèce de grande volée de la pluridisciplinarité et justement un projet d'éducation populaire, c'est forcément de l'animatoire et du divertissement. Alors que non, nous, on a défendu ça très fortement dès le début. Là, maintenant, on n'a plus besoin de le défendre puisqu'on est OK avec ça et que notre projet traduit ça, je pense. Enfin, c'est même sûr, puisqu'on est du coup suivi maintenant par tous ces partenaires-là. Mais voilà, ça a été effectivement un long combat. Là, je parle d'un projet maintenant qui a effectivement presque 20 ans et qui est plutôt serein par rapport à ça. Et c'était super intéressant aussi de travailler avec les artistes sur ces questions-là. Je reviens, je le disais juste avant, mais... Je prends comme exemple Pierre Sacchini, qui est un artiste ami avec qui on travaille depuis plus de 10 ans maintenant, qu'on retrouvera aussi sur la route de l'eau cette année là dans les chemins du vivant, parce que c'est un artiste avec qui on aime beaucoup travailler et qui aime bien faire des pas de côté, qui a sa pratique de musique à un niveau national et international et qui aime bien faire des pas de côté. Et pour le coup, Pierre c'est vraiment quelqu'un qu'on a un peu tordu sur ces questions là c'est-à-dire que il venait pas forcément lui du tout de cet endroit-là, mais aussi parce qu'il est franco-anglais, italien, que c'est pas forcément, en tout cas, une pratique qu'il avait de l'éducation populaire, de la question de l'action culturelle, d'aller vers les publics. Lui, il est vraiment sur une pratique plutôt, effectivement, sa pratique de musicien, et puis après, concert à donner, et puis voilà. Et en fait, à force de parler avec lui, et notamment de créer une programmation qui s'appelle la route de la voix, qui est pas la route de l'eau, mais la route de la voix, dans des chapelles romanes un peu partout en Cévennes et en Pic-Saint-Loup, nous, ça nous a paru important à un moment donné, parce que c'est dans toute petite jauge dans les chapelles, donc on est sur une jauge à 100 personnes, de petit à petit aller sur des moments de rencontre avec les publics qui venaient dans ces temps un peu... hors du monde, dans ce petit écrin de chapelle où ils vivent un concert en acoustique pendant 1h30, qui est assez incroyable. Il y a eu vraiment, en fait, l'envie à un moment donné de dire, on pourrait tester des choses. On pourrait tester des masterclass avec, sur la formation professionnelle. On pourrait tester des temps de rencontre, des endroits aussi de tester des choses avec des artistes invités qui fait venir sur cette route de la voix où, en fait, des fois, c'est des crash tests et c'est super intéressant aussi. Donc, c'est des moments de, sortie résidence classique. Mais c'est des choses qui te faisaient pas du tout. Donc, il y a eu aussi ce travail-là aussi avec des artistes qui sont de réelle qualité et où on a eu en fait envie et ils nous ont fait confiance aussi en disant ok, on teste ça, et je pense que ça nous a permis de montrer que c'était possible aussi de là où on était, quoi. Mais j'entends bien cet endroit-là de marcher sur un fil aussi, qui n'est pas simple. De toute manière, à partir du moment où on a dit, nous, dès le début, qu'on avait un accueil de loisirs et qu'on voulait faire une programmation culturelle de qualité, au début, ça ne rentrait pas, quoi. Ça ne rentrait pas dans les cases. La DRAC nous a rayonnés, quoi, tout simplement. Et on a dit, peut-être que ça peut être intéressant, quand même. Et puis, l'ex-VP Culture, Claire Fita, nous a dit, mais en fait, c'est complètement incroyable ce que vous faites, c'est génial, c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait des accueils de loisirs dans toutes les scènes nationales, les scènes conventionnées, dans toutes les institutions culturelles, en fait, c'est ça qu'il faut. Nous aussi, il nous semble que c'est vachement intéressant de faire ça. Donc voilà, à développer, quoi.
Je crois qu'on l'a vu au fil de cette discussion, la culture peut beaucoup, les acteurs culturels peuvent beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout. Et ça, c'est un vrai problème. Ça fait naître énormément de contradictions. Je crois que la culture a quelque chose de, le milieu culturel a quelque chose de très spécifique. Je vais prendre un exemple très concret. Quand on parle de l'agriculture, quand on passe d'un modèle d'agriculture traditionnelle à un modèle d'agriculture moderne, extensif et intensif, dans les années 50-60, on abandonne complètement le modèle d'agriculture traditionnelle. On revient jamais en arrière. Et c'est vrai dans d'autres secteurs d'intervention publique, c'est vrai dans d'autres secteurs de la société. Dans le milieu culturel, c'est l'inverse qui se produit. Quand les objectifs ou les grands paradigmes des politiques culturelles et de l'action culturelle ne se remplacent pas les uns les autres, ils ne se succèdent pas les uns aux autres, ils s'ajoutent, ils s'accumulent. quand on a décidé de faire de la démocratisation culturelle, c'est-à-dire l'accès à l'excellence artistique à tous, on n'a pas abandonné l'objectif d'excellence artistique. Quand on a décidé de faire la promotion des droits culturels, on n'a pas pour autant abandonné l'objectif de démocratisation de l'accès à la culture. Quand on décide de faire en sorte que la culture fasse la promotion, par exemple, de la cohésion sociale, on n'abandonne pas le paradigme des droits culturels pour autant. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, il y a deux façons d'aborder la chose. Il y a la façon optimiste, et alors, tout à l'heure, vous avez dit que l'expérience qu'on peut ressentir lorsqu'on est face à une œuvre culturelle, c'est d'abord une expérience individuelle, on ressent les choses seul. Alors c'est vrai dans une certaine mesure, mais pas totalement. Nous, ce qu'on a vu dans le projet européen que j'évoquais tout à l'heure, sur les valeurs de la culture, alors qu'on a observé ça sous l'angle des pratiques culturelles, c'est-à-dire des citoyens, la façon dont les citoyens valorisaient leurs expériences culturelles, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'ils ressentaient lorsqu'ils pratiquaient de la danse, lorsqu'ils faisaient de la musique, lorsqu'ils voyaient une œuvre au théâtre, eh bien, on s'est aperçu que cette valorisation, ces sentiments, ils étaient produits au carrefour de trois éléments. Premier élément, ce qu'on a appelé, suivant les travaux de Bourdieu, l'habitus. Ce qu'on peut ressentir face à une œuvre culturelle, ça dépend de notre propre trajectoire, de notre origine individuelle, etc. Bon. Le deuxième élément, c'est le contexte dans lequel on fait l'expérience de l'œuvre culturelle. Et ce contexte, il peut être multiple, il est composé d'éléments très divers. Alors ça peut être le lieu, ça peut être le rapport au territoire, mais le rapport à l'exceptionnalité du lieu. Mais c'est aussi, ce sont aussi les personnes hein, que l'on, avec qui on partage ce moment artistique. Et le troisième élément, ben, c'est l'œuvre en elle-même. La façon dont on la reçoit et ce que l'œuvre, en tant que médium, hein, produit en termes d'émotion hein, sur nous-mêmes. Donc cette transversalité dont on parle depuis tout à l'heure, c'est aussi quelque chose hein, qui sert non seulement à amener les publics à la culture, hein, les publics quand ils vont à la culture, ils viennent jamais pour rien, hein, de manière totalement fortuite, et en même temps c'est quelque chose voilà qui fait partie prenante hein, de leur expérience esthétique. Mais en même temps effectivement cette pluralité, ce bouillon, je l'ai dit au début, hein, ça peut peser comme une contrainte hein, sur les acteurs. Comment est-ce qu'on continue à valoriser hein, l'excellence d'une création artistique tout en ayant en tête différents objectifs qu'on pourrait qualifier d'extrinsèques? Alors c'est un problème pour les acteurs culturels, effectivement. Mais là où ça devient encore plus complexe, c'est que c'est un problème également pour les financeurs de la culture. Aujourd'hui, cette pluralité d'objectifs, cette pluralité de valeurs associées à la culture crée des tensions chez ces financeurs. On le voit très bien en France, les différents niveaux de financement de la culture, que ce soit l'État, les collectivités, hein, les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, ont une conception, des conceptions assez différentes de la façon dont on doit valoriser l'action publique culturelle. Et ça crée des oppositions. Et ce sont des oppositions qui peuvent directement se faire ressentir sur les acteurs culturels eux-mêmes, puisque on peut être face à une collectivité qui vous demande avant tout de faire de l'excellence artistique, et une autre qui va vous dire non, ce qu'il faut, c'est de faire de la cohésion sociale sur ce territoire. Et évidemment, ça peut engendrer des problématiques assez fortes. Et l'autre problème, c'est que cette pluralité de valeurs crée des tensions, cette fois-ci non pas d'un point de vue institutionnel, du point de vue de la façon dont on aborde la question du financement de la culture, mais des tensions de type proprement politique. Et aujourd'hui, c'est un discours qu'on voit fleurir assez communément et un peu partout en Europe et dans le monde, sur finalement l'idée selon laquelle eh bien, les institutions qui ne font pas véritablement de l'excellence artistique, elles ne valent pas la peine. Lorsque vous faites la promotion de la cohésion sociale ou d'autres objectifs, que ce soit par exemple la promotion de l'égalité homme-femme ou la promotion des normes environnementales, eh bien, vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. Et c'est aujourd'hui un vrai problème, puisque les acteurs culturels sont attaqués sur ce pan-là, en particulier par des forces politiques qu'on qualifie aujourd'hui de populistes. Et par ailleurs, ça peut gagner également d'autres camps politiques. Et puisqu'on voit qu'aujourd'hui, en France, la question du financement de la culture est un vrai problème. Et plusieurs collectivités, aujourd'hui, se sont désengagées du financement de la culture. Et c'est quelque chose qui impacte en priorité, justement, ces institutions qui font de la culture pour autre chose que de l'excellence artistique. C'est le cas des festivals, c'est le cas des associations à but non lucratif. Et on en a l'exemple un peu partout en France, encore une fois, que ce soit dans la région, le Pays de la Loire, ou encore plus proche de nous, avec le département de l'Hérault qui a revu à la baisse, de manière assez drastique, ses financements pour les acteurs culturels.
Moi, j'avais une question sur les actions vraiment concrètes que vous avez pu mettre en place pour pas seulement fidéliser, mais vraiment que votre public il se sente impliqué dans votre lieu. Et surtout dans le milieu rural, et que c'est peut-être déjà pas facile qu'ils viennent. Et s'ils viennent voir un spectacle, et pas qu'ils repartent direct, mais vraiment qu'ils se sentent impliqués dans votre lieu. Est-ce que vous avez eu qu'est-ce que vous avez mis en place vraiment concrètement pour qu'ils s'impliquent?
On a mis plein de choses en place. Ça dépend. Alors nous, on a un public qui est assez, qui est vraiment très très local, qui vient vraiment des quatre communes Causses et Vallées de la Buëge, un bassin de vie de 700 habitants-habitantes. On a un public montpelliérain important. Là, il y en a dans la salle. Après, on a aussi un public de notre communauté de communes, Grand Pic Saint-Loup, mais aussi nous, on est sur un petit Causses, donc le petit Causses qui est avant le Causses Larzac. Et on est en fait un croisement entre le bassin grangeois, le cœur pays d'Hérault, donc toute Agnan, Gignac, même l'Audève et Clermont-l'Hérault, et Montpellier avec tout le Grand Pic Saint-Loup. Donc on a vraiment un public de ces trois endroits qui viennent. Et en fait, ben forcément, ils vont venir différemment et chercher des choses différentes selon de la distance à laquelle ils viennent. Mais comme nous, on rayonne aussi sur tout le Grand Pic Saint-Loup, par exemple, on va aussi aller chercher en proposant des actions et des projets de territoire dont je parlais tout à l'heure. Sur le lieu, ce qu'on propose, c'est il y a vraiment la programmation culturelle du vendredi, les vendredis juillet-août. Donc ça, c'est un rendez-vous régulier. Où il y a la possibilité, déjà c'est tout bête, mais de pouvoir dormir sur place. Donc il y a la possibilité, parce que justement on a un public montpelliérain, des publics qui viennent d'un peu plus loin et qui n'ont pas forcément envie de faire la route. Donc ça, rien que ça, ça permet d'avoir des personnes qui restent dormir sur place. On a un petit espace où ils peuvent planter la tente, mettre le camping-car. Il y a des douches le lendemain pour qu'ils prennent la douche, parce qu'on essaie justement d'être dans cet endroit où on essaie de cocooner un peu les personnes qui restent sur place, les toilettes sèche, il y a tout ce qu'il faut. On fait de l'affichage pour qu'ils aillent boire un café au bar du village, et du coup il y a un lien. Il y a beaucoup de personnes qui restent après sur place sur le week-end pour aller se baigner, faire du canoë ou autre. On parlait d'attractivité du territoire et du développement touristique aussi, ça en fait partie. Alors ça, c'est une première entrée. Il y a une possibilité d'être bénévole aussi, tout simplement. On fait beaucoup de communication autour du fait que n'importe qui peut être bénévole à nos soirées. Donc c'est aussi une entrée, une porte d'entrée pour mieux connaître la structure et mieux connaître l'équipe, salariés, bénévoles, et pouvoir s'impliquer pour des personnes. Donc des personnes qui viennent de plus loin, comme des personnes des villages environnants. Et après, c'est régulièrement des mises à disposition pour l'association du village, pour des parents qui ont envie de faire un anniversaire. Enfin, ça nous est arrivé plein de fois, des parents qui nous demandent de faire un anniversaire pour leur enfant. Enfin, c'est aussi d'avoir un lieu qui est ouvert et qui laisse la possibilité de faire plein de choses, de l'ordre du privé aussi. Cette idée que ça s'arrête pas, en fait, au moment où on ferme la porte et où on a terminé notre soirée culturelle ou notre saison fin septembre. Il y a vraiment cette continuité-là. Et puis après, l'espace de vie sociale a permis aussi tout au long de l'année, puisqu'avant on avait une saisonnalité entre début mai et fin septembre. Et là, maintenant, on est vraiment sur une proposition d'action tout au long de l'année, avec Alors là, on est plus sur de l'animation et vie locale, mais ça permet en fait à des personnes qui sont venues voir un concert, venues voir un spectacle l'été, de pouvoir revenir à d'autres moments, sur des moments peut-être où c'est plus facile de discuter avec nous, de plus facile de discuter avec les bénévoles, de mieux voir les lieux. Donc c'est des rendez-vous comme ça, peut-être plus intimistes aussi, parce que sur nos soirées, on n'est pas un énorme festival avec des jauges à 5000 personnes, mais on a quand même une jauge à 700 personnes. Ça fait quand même un petit festival tous les vendredis. Donc c'est pas forcément le moment, puis on n'est pas tout le temps disponible sur ces soirées-là, parce qu'on bosse. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir des rendez-vous comme ça tout au long de l'année, qui permettent en fait de venir nous rencontrer. On propose aussi des visites du lieu et du tiers-lieu tous les derniers jeudis du mois, gratuites évidemment, qui sont des visites apprenantes pendant 2h30, où toutes les personnes qui sont intéressées peuvent venir. Et là, c'est pareil, on parle beaucoup de notre projet, on explique d'où on est parti, ce qu'on y fait. C'est des moments aussi un peu précieux pour les personnes qui ont envie de rentrer en contact avec nous. Et on refuse très très rarement des partenariats. Bon, évidemment, ça dépend de ce qu'il y a derrière, mais on nous propose là encore la semaine dernière une association qu'on connaissait pas, qui est Anian et qui fait un projet Erasmus+ avec l'Italie, l'Allemagne et l'Afrique du Sud, et qui nous propose d'accueillir un groupe de 35 personnes sur une journée. C'est en plein mois de septembre, en plein la route de l'eau, donc on va être déjà complètement sous l'eau au niveau du travail, mais on se dit c'est super, voilà, on les accueille. Donc en fait c'est tout le temps ça, c'est-à-dire que et alors après, attention, parce que voilà, on fait aussi attention à notre temps de travail et de ne pas en faire trop, mais on est aussi une équipe maintenant qui a les épaules et qui a la possibilité de faire ça, sinon on le ferait pas. Mais voilà, typiquement c'est génial, on leur propose de venir sur une journée où ils vont participer à des activités et à la programmation de la route de l'eau, et ils vont nous rencontrer et on va faire une visite apprenante pour eux. Donc c'est aussi pouvoir accueillir des partenariats à longueur de temps à tous les niveaux. Voilà, là c'est un projet Erasmus+, mais ça peut être le foyer rural, mais ça peut être une équipe artistique qu'on dépanne parce qu'ils veulent venir faire un clip. Voilà, c'est d'être aussi dans la possibilité d'ouvrir les portes de ce lieu et de pouvoir nous rencontrer, et qu'il n'y ait pas une porte close, en tout cas. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
Même si la question ne s'adressait pas exactement à moi, quelques mots tout de même, parce que vous posez une question intéressante qui porte sur la notion de participation. Je crois qu'il faut reconsidérer cette question de la participation. Alors, il faut la reconsidérer à un double titre. Ce que vous suggérez, effectivement, c'est de faire la distinction entre la participation telle qu'on l'entend traditionnellement, qui est une participation passive, c'est-à-dire des publics qui viennent écouter ou voir consommer, hein, si je parle en termes économiques, une offre qu'il aurait proposée. Donc, effectivement, il faut se demander qu'est-ce que les publics font de cette offre et comment est-ce qu'ils peuvent participer à la création de celle-ci. Alors, c'est toute la problématique des droits culturels, évidemment. Mais il y a une autre façon d'envisager cette question-là. Et je dirais que c'est une façon qui va plutôt considérer la question de la temporalité. On peut se questionner sur la façon dont les publics participent au moment où on leur propose l'offre, c'est-à-dire au cœur d'événements, hein, au sein d'institutions comme Bouillon Cube ou comme les festivals. Mais je crois aussi beaucoup à la question des effets sur le long terme, hein, la participation des publics à ce type d'approche. Et finalement, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que cela produit sur le long terme ? Est-ce que faire participer les publics, ce n'est pas aussi susciter chez eux une relation plus active, plus durable avec la création artistique ? Est-ce que faire participer des publics, ce n'est pas, par exemple, leur donner envie d'apprendre un instrument ou de se lancer dans des cours de chant, des cours de danse, après avoir participé à un événement ? Et là, on est sur des problématiques très, très intéressantes et très complexes à la fois, puisque ça pose la question de l'évaluation des impacts des acteurs culturels sur le long terme. Et en tout début de séance, on a évoqué la question de l'analyse, et en particulier de l'analyse statistique, et moi je crois beaucoup à ça, à ses vertus pour démontrer les impacts des acteurs culturels sur les publics, non seulement sur le court terme, c'est-à-dire s'intéresser au profil des publics qui viennent, qui se déplacent et qui participent sous différentes formes aux différents événements organisés, mais également aux impacts sur le long terme, des impacts qui peuvent être à la fois culturels, mais aussi sociaux et pourquoi pas démocratiques.
Merci.
Merci à vous.
Les rendez-vous M28, un projet réalisé en coproduction avec les radios du CRLO.